se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à lundi, 68% de remise immédiate sur la deuxième boîte de capsules de lessive Homo 3 en 1.
À 22 centimes la lessive, je veux bien faire celle du voisin.
Eh ben comme ça, tout le monde est content. Auchan, avec plaisir. 11,87€ les deux boîtes de lessive Homo Monoï au lieu de 17,98€. 8,99€ la boîte vendue seule, soit 12,71€ le kilo. Existant d'autres variétés valables sur le moins cher dans vos magasins et drive Auchan participants et en livraison à domicile. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
RMC, les grandes gueules.
Concernant les nouveaux ouvrages, parce qu'il y a des endroits où il faut des nouveaux ouvrages, le cadre doit être très clair. Il ne s'agit pas de privatiser l'eau ou de permettre à certains de se l'accaparer. La règle, c'est bien le partage entre les différents usages, entre les agriculteurs, avec parfois d'autres usages qui peuvent être touristiques, qui peuvent être pour justement les habitants de la commune. Et donc, les nouvelles retenues devront donc être d'abord inscrites dans des projets de territoire concertés. Deuxièmement, avoir plusieurs usages. Par exemple, rendre clairement des services à la biodiversité. Puis troisièmement, ces retenues doivent être conditionnées à des changements de pratiques significatifs et individualisés, notamment des économies d'eau, la réduction de pesticides et donc des schémas de transition agricole.
Alors, ces mégabassines sont-elles une solution pour la sécheresse? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui avec vous dans les GG.
Oui, alors donc Emmanuel Macron, il a répondu qu'il était pour les mégabassines, mais à condition que ça respecte certains critères écologiques et tout ça, on l'a entendu. Il a quand même dénoncé aussi ce qui s'est passé à Sainte-Soline. Il a dit que ce sont des milliers de gens qui étaient venus pour faire la guerre. Voilà ce qu'a dit Emmanuel Macron. Alors du coup, comme on a Didier Giraud, qu'on n'avait pas entendu sur ce sujet cette semaine, ça a été un peu le sujet polémique de la semaine, à la fois parce qu'il y a eu beaucoup de violence à Sainte-Soline, mais aussi parce qu'on se pose la question, est-ce que oui ou non, les agriculteurs ont besoin de ces méga-bassines et est-ce que ça ne va pas se faire au détriment d'autres besoins?
Didier. Alors moi, je suis pas qualifié pour dire si dans tel ou tel territoire on peut faire une réserve collinaire. Déjà, le fait que vous répétiez le terme méga bassine à longueur d'antenne, à longueur de journée, déjà ça envoie un message comme quoi c'est néfaste. Oui. Quoi. Et je trouve que ce terme méga bassine qui a été créé par les écolos, parce que on va appeler un chat, hein, c'est les opposants à ces projets-là qui l'ont appelé méga bassine. Le fait que ça se répète en boucle sur les antennes méga bassine,
t'as pas tort.
Ça t'envoie déjà un signe comme quoi
c'est péjoratif.
On est déjà dans l'industriel, on est déjà dans le truc qui est dégueulasse pour la nature.
Tu appelles ça comment toi, des réserves d'eau?
C'est une réserve collinaire.
Voilà.
Ou une retenue, ou tu peux trouver un autre terme qui t'envoie à une image différente que méga bassine. Voilà. Ça, je voulais le dire. Après, derrière ça, c'est territoire.
Donc, il faut choisir le terme des agriculteurs et pas le terme des écologistes.
Non, en fait, il n'y a pas le terme des agriculteurs, mais je trouve. Voilà, c'est une remarque, parce que je trouve quand même que ça donne un signe négatif rien qu'à l'utilisation.
Bah
c'est un terme qui rentrait dans toutes les bouches de journalistes depuis une semaine.
C'est un peu comme les violences policières.
C'est les violences policières. Ouais,
les violences policières, c'est un terme qui a été inventé déjà, par ceux qui dénoncent les flics.
Tu dis ça comment? Alors, tu dis des caresses?
Non, tu dis des violences commises par les policiers. C'est pas tout à fait la même chose.
Tu peux même dire par les policiers déviants.
Ouais, voilà. Bon, alors vas-y, continue.
Non, mais après, c'est territoire par territoire qu'il faut que ça s'analyse. Et à un moment donné, quant à ce qui est en image derrière Alain, quant à ce qui est à Sainte-Soline, il y a 15 ans de travail. Il y a 15 ans de travail de la police de l'eau, de syndicats d'aménagement, de gens qui ont besoin d'eau et qui étudient le territoire et l'hydrographie pour savoir comment et quand la prélever et comment et quand la rendre, quoi. Parce que ces retenues, elles servent aussi à réguler un étiage pour l'été, quoi. Hein. On croit que elle va à 100% à l'agriculture, cette eau-là. Mais c'est faux, quoi. L'eau qu'il y a dans les réserves collinaires, elle va, alors, en partie, en grande partie, tu le dis comme tu veux, mais ça peut varier de l'un à l'autre. Je me rappelle de Sivens, par exemple. À Sivens, ce qui n'a pas eu lieu, hein, parce que Sivens, alors qu'il y avait 20 ans de travail derrière pour arriver à rendre de l'eau à 200 agriculteurs, on en est arrivé à ce qu'il se fasse rien du tout.
Il y a un gamin qui est mort là-bas quand même.
Mais il s'est fait rien du tout, quoi. Enfin, à un moment donné, moi c'est simple, hein, le truc, je vous le pose sur la table, amis consommateurs. Il y a deux solutions. Soit vous voulez continuer à bouffer et vous nous cassez les bonbons sur l'indépendance alimentaire et auquel cas, vous nous donnez les moyens de vous donner à bouffer.
D'eau.
Soit vous bouffez du poulet javelisé du Brésil et puis du soja qui vient d'Amérique du Sud ou de la forêt amazonienne, quoi.
Oui, mais voilà. Il y a un Saint-Semblant, Didier.
Le débat, il est là.
Non, le débat, on voit bien, il est très technique. Il y a ceux qui disent ils disent que mettre en réserve, il y a certains qui disent qu'une méga bassine ou une réserve d'eau, c'est simplement mettre en réserve le surplus d'eau
hivernale
des nappes phréatiques d'hiver.
Pour l'été. Voilà. Et il se trouve que cette année, ça n'a pas rempli.
Voilà. Et cette année, ça n'a pas rempli parce que
c'est cette année, Olivier.
Voilà, bien sûr. Et puis les opposants aux mégabassines, du coup, parce qu'ils appellent ça mégabassine, disent qu'il s'agit de pomper dans les nappes. Et en fait, tout le débat, il est là.
Oui.
Et j'ai entendu la géographe Sylvie Brunel, qui est quand même quelqu'un, qui est une des plus grandes géographes françaises, qui est, elle, plutôt pour les bassines, et qui dit qu'effectivement, il faut pouvoir disposer, lors des étés qui sont de plus en plus chauds, de cette eau perdue en hiver, parce que si on l'utilise pas, c'est de l'eau perdue, et donc c'est juste anticipé.
C'est exactement ça, et quand tu pompes dans les nappes, parce que, en gros, tu peux pas collecter, enfin, quand la topographie est plate, tu peux pas collecter un bassin versant. Donc, tu pompes dans la nappe, en effet, tu pompes dans la nappe, mais tu pompes dans la nappe la quantité de ce qui tombe.
Le surplus.
Si ça tombe pas, tu pompes pas dans la nappe. Et tu pompes dans la nappe, s'il tombe 30 mm sur un territoire, et ben tu pompes le nombre de litres d'eau qui correspondent aux 30 mm du territoire. Et la régulation de ça doit être irréprochable, parce qu'aujourd'hui, les chiffres sont instrumentalisés. Et la vérité d'un territoire n'est pas la vérité d'un territoire à côté.
Et sans eau, pas d'agriculture, il faut le rappeler.
Sans eau, pas d'agriculture. Alors moi, j'entends qu'il faut aller vers la transition du modèle agricole.
On peut moins utiliser d'eau.
Alors moi, j'entends, et je pense que les agriculteurs y sont engagés. Je rappelle quand même que mes vaches mange 80% d'une alimentation qui n'est pas consommable par l'être humain, quoi. Enfin, faut le rappeler quand même.
Alors,
on peut me dire qu'il faut plus de viande. Ça, je veux bien l'entendre, mais mes vaches, elles mangent 80% de ce qu'elles mangent.
C'est-à-dire,
l'homme ne peut pas le manger.
Est-ce que je peux développer le propos pour les gens comme moi?
Ça veut dire que il faut faire pousser de l'herbe pour qu'elle soit transformée en protéines par mes vaches, quoi. Et en aucun cas, tu vas pouvoir te substituer des vaches et manger l'herbe qui pousse, quoi. Enfin, c'est là que je veux aller. Et après, derrière ça, sur l'utilisation de l'eau, dans ce qu'a dit le président dans les 130 mesures, il y a aussi quelques bonnes choses, des choses que je dis depuis très longtemps ici, c'est la réutilisation des eaux usées,
oui,
quoi.
Ça, hein.
Parce que quand on parle d'irrigation agricole, c'est quand même invraisemblable qu'en France, on soit moins de 1% d'utilisation des eaux usées, quoi.
Très en retard.
T'as des pays, en Israël, ça monte à
40-50%.
En Espagne, on est plutôt autour de 12-13%. Ouais. Et je trouve que cette transformation de l'agriculture, elle est obligatoire. Peut-être qu'il y a des zones en France, où vous ne pouvez plus faire de maïs.
Oui, mais
c'est un vrai choix de société, quoi.
L'une des critiques qui dit justement, même si c'est l'eau qui tombe et qu'ensuite on la pompe, il dit au contraire, faut la laisser naviguer, faut la laisser aller dans les sols, faut la laisser faire son trajet naturel. Parce que au fil de son trajet, elle entretient les terres. Il y a tout aussi une biologie qui est là, un environnement qui a besoin de cette eau, et on la lui enlève. Qu'est-ce que tu réponds ?
Non, mais je réponds, allez voir dans des pays où la pluviométrie est de 100 mm par an, quoi. Hein. Oui, mais là, ils ont une agriculture, hein. Bah sauf qu'ils se sont organisés pour avoir
Ils font du goutte à goutte aussi, par exemple.
Mais au sud de l'Espagne, une goutte d'eau qui tombe, elle est récupérée. Hein. En Andalousie, une goutte d'eau qui tombe, elle est récupérée systématiquement. Et derrière
on fait de l'agriculture, mais ils ne perdent pas, quoi.
Ils n'ont pas les mêmes sols, ils n'ont pas le même climat et autres.
On vivait dans un monde d'opulence par rapport à l'eau. Voilà. Et on est en train de passer sur un monde de restrictions. Donc, à nous de nous adapter.
Ben oui.
Alors, à la fois dans les modèles agricoles, mais aussi dans ne pas perdre la ressource, quoi.
Et les écologistes, en fait, prônent une agriculture qui ne peut pas fonctionner.
Bah, une agriculture
qui ne nourrit pas tout le monde.
Qui nourrit 25 millions de personnes en France, quoi.
D'ailleurs, le député européen, tu le connais bien, là, qui est en première ligne.
Bruno Guiteau.
Bon. D'aucuns disent qu'il ne vit pas son exploitation agricole, il vit de ses émoluments de député européen parce que son modèle n'est pas rentable.
Bah oui, on peut le dire, oui.
Alors attends, on va écouter Valentin qui nous appelle de Loire-Atlantique.
Sur le Larzac, il vivait pas de ses moutons non plus.
Mais non, bien sûr.
Valentin qui est maraîcher. Bonjour Valentin.
Bonjour.
Et qu'en dites-vous, vous, Valentin, alors? Est-ce qu'on a besoin de ces retenues d'eau?
Oui, alors moi j'en suis même équipé.
C'est-à-dire
chers collègues agriculteurs, moi je suis maraîcher en Loire-Atlantique. Et en fait, ces retenues, on en a besoin pour pouvoir garantir de la production alimentaire. Parce que il faut pas oublier qu'aujourd'hui on importe. Alors moi, je connais plutôt la partie fruits et légumes. On importe aujourd'hui quand même 50% de nos fruits et légumes venant de pays qui n'ont absolument pas les mêmes préoccupations environnementales que celles qui nous occupent. Ce qu'on oublie de dire aussi régulièrement, c'est que ces retenues d'eau, alors qui ne sont pas des retenues collinaires. La retenue collinaire, c'est un C'est plus ou moins un barrage.
C'est que du ruissellement, ouais.
Voilà, c'est un barrage qu'on fait sur une rivière. Je caricature. Là, on parle vraiment de retenue. On vient pomper un endroit pour la stocker quelque part. Toute l'eau qu'on utilise en agriculture, on ne le dit pas souvent, mais on paye chaque mètre cube qu'on utilise. Chez moi, par exemple, j'ai une serre pour produire des tomates, des concombres, des poivrons, des aubergines. Tout ça en agriculture bio. Je récupère 100% de mes eaux de pluie et 100% de l'irrigation que je fais chez moi, je le fais avec de l'eau de récupération d'eau de pluie. Toute l'eau que j'utilise, je la paye.
Y compris la vôtre, quoi.
Voilà, y compris, oui, et du coup, ces taxes qu'on paye, on paye aussi pour l'entretien des réseaux du particulier. Et contrairement à ce qu'a dit M. Mélenchon, je crois, sur vos antennes, où tout le monde se fout de l'eau, alors peut-être M. Mélenchon, oui, nous, en tout cas, en production, c'est absolument pas vrai. Et le goutte-à-goutte, j'en ai entendu parler il y a quelques minutes là sur votre antenne, on en utilise énormément en France, ouais, notamment en production légumière, c'est tout à fait démocratisé. Les économies d'eau, on en fait aussi. Par contre, une plante, c'est 80, 90, 95% d'eau. Même si on change en partie nos modèles, même si on travaille sur des cultures moins gourmandes, un légume, il faudra de l'eau. Ça n'existe pas.
Un légume, c'est 80% d'eau.
Ah oui. Minimum. Donc, de toute façon, on ne pourra pas donner de l'alimentation à nos concitoyens sans eau. Ce n'est pas possible. C'est même pas envisageable.
La réserve que vous utilisez, Valentin, c'est une réserve individuelle, vous est propre.
Alors moi, dans mon cas, c'est une réserve individuelle parce qu'elle est pas.
Donc, ce qu'il faut expliquer aussi
pour mes besoins personnels.
Ce qu'il faut expliquer aussi à nos auditeurs, c'est que ce qu'a Valentin, c'est-à-dire une réserve privée et individuelle, il y a personne qui va aller s'opposer à ça, et il y en a plein en France. Sainte-Soline, c'est exactement la même chose, sauf que c'est coopératif, quoi. Donc du coup, la taille est différente, mais c'est ouais, juste un outil coopératif.
Il y a un peu un truc idéologique, voilà, parce que j'entends beaucoup, l'eau appartient à tout le monde, ouais. On veut pas privatiser l'eau. Moi, je pense que ceux qui dit ça, il y a un côté Lénine est de retour, c'est-à-dire on veut que tout soit collectif.
C'est la même mouvance.
On veut que tout soit collectif, et donc un jour on viendra chez toi. Ah non, alors la douche là, vous êtes en train de prendre une douche, maintenant cette eau nous appartient, elle appartient à tout le monde.
Peut-être qu'il y a une différence, Valentin, entre vous qui êtes très local sur une petite, je sais pas quelle est la taille de votre exploitation, une petite exploitation, et là-bas du côté de Sainte-Soline où effectivement c'est coopératif. Mais on dit que ce sont d'immenses exploitations qui sont sur de l'agriculture intensive. On peut peut-être différencier, Valentin.
Alors, moi, justement, je suis pas d'accord avec ça. Je vois pas pourquoi on viendrait différencier. Ce sont d'immenses exploitations. C'est quoi le ratio de surface? On va en Ukraine, on a des exploitations qui font 2000 hectares. En Russie, c'est pareil, 2000, 3000 hectares. En France, la moyenne d'exploitation, si je dis pas de bêtises, elle tourne autour de 160 hectares. Quand bien même ce soit des exploitations de 300 hectares, faut pas oublier que nous, agriculteurs, on est là pour nourrir les gens. Les gens qui viennent se battre à Sainte-Soline, c'est des gens qui viennent en partie de l'étranger. Les soulèvements de la terre, ils font venir des gens de l'étranger pour venir nous donner des leçons en France, venant de pays qui sont pas capables de respecter la moitié des réglementations qu'on nous impose en France.
Ouais, mais Valentin, moi je voulais vous poser des questions parce que moi j'entends ce que vous dites. Alors juste pour Mélenchon, hein, moi je suis pas son plus gros premier fan, tout le monde le sait, mais il a fait un meeting pendant la campagne que sur le thème de l'eau. C'est un des rares politiciens, ouais, qui avait fait quelque chose là-dessus. Donc le Mélenchon, il s'en fout pas. Après, moi j'ai un truc.
Ah, il s'en fout pas depuis pas très longtemps, manifestement.
Non, ça fait quelques années, non, mais réellement. Après, bon, c'est pas chacun.
Pas forcément d'accord.
Voilà.
Ce qu'il raconte,
voilà. Là. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est que moi l'histoire des mégabassines, j'arrive pas à comprendre l'intérêt de ce genre de truc pour deux raisons. Déjà, quand vous faites une bassine et que l'eau elle est comme ça, il y a de la perdition parce qu'évidemment elle va s'évaporer, et le fait qu'elle est stagnante, il y a des bactéries qui arrivent, ça tout le monde l'a reconnu, et donc je vois pas l'intérêt. Et moi quand j'étais gamin, il y avait un truc qui existait qui s'appelait le château d'eau à l'entrée de toutes les villes et villages de France, il y en avait même plusieurs dans les villes, et derrière vous pouviez stocker votre flotte là-dedans et après les gens pouvaient aller la chercher. Moi je ne comprends pas l'intérêt de faire des méga bassines. Ouais, mais c'est pour ça. Mais le château d'eau, c'est quelque chose où l'eau s'évapore pas parce qu'elle est c'est fermé tout.
Ça.
Et moi je comprends pas.
Les bactéries,
pas.
C'est le même problème.
Oui, mais après si les bactéries t'arrives à les traiter par un produit pour que ton eau soit
là,
pareil dans une bassine que
oui, mais sauf que là, l'évaporation, elle est à 60%. Moi, je comprends pas. Mais c'est pour ça que je me dis, pourquoi on a été faire des méga bassines qui sont hyper conflictuelles, alors qu'en fin de compte, on n'avait qu'à mettre, qu'à refermer les châteaux d'eau. Il y en a partout.
Et ben parce que c'est les lois de la physique. Valentin. C'est que dans une bassine où il y a 3 millions de mètres cubes d'eau,
Didier, allez-y.
En soi, pour irriguer des cultures céréalières, je vais être franc, on s'en fout, on s'en contrefout. Quand vous allez vous baigner à la plage, vous allez vous baigner dans des rivières, dans des bassins, dans des lacs, il y a de la bactériaux, Ça gêne personne. Moi, dans mon cas, par exemple, quand je fais de l'irrigation sur des cultures de jeunes pousses ou de mâches, là, par contre, mon eau d'irrigation est analysée. Et on doit mettre en place des procédés pour justement qu'il n'y ait pas de problème de bactéries sur l'alimentation. Mais pour irriguer du maïs, c'est pas grave. Les bactéries sont dégradées par les UV, donc ça n'a pas d'impact. C'est des produits qui sont soit qui servent à alimenter du bétail, soit qui sont après transformés pour l'alimentation humaine. Donc en fait, les problèmes de bactériose, c'est pas très grave. Ensuite, l'intérêt. Pourquoi créer des retenues? Ce qu'on va remplir en hiver, quand l'eau effectivement est plus abondante. Vous pouvez aller voir dans le Marais Poitevin ce qui s'est fait, le retour d'expérience. Donc il y a quand même il doit y avoir une vingtaine de retenues dans le sud Vendée.
Mais c'est critiqué d'ailleurs.
Le niveau des nappes phréatiques en Vendée en été a augmenté de plus d'un mètre.
Oui.
Parce que justement, comme l'irrigation, on a fait quand moi j'irrigue quasiment pas l'hiver, on n'a pas besoin d'irriguer l'hiver. Mmh. On a besoin d'irriguer au printemps, à l'été et un peu à l'automne. Les régimes de précipitation changent.
D'accord.
Le climat change, mais nous le climat et la terre, ce sont des outils de travail pour nous. Ouais. C'est notre quotidien. Le climat, c'est pas d'hier
j'entends, mais quand vous prenez le Marais Poitevin, vous prenez une région qui est très humide. Mais le problème de ces bassins-là, c'est que vous risquez à risque d'être faite, et c'est ce qui est de l'avenir va le faire. Elle sera faite dans des régions où il y a très peu d'eau, donc ils vont pomper les nappes phréatiques et donc l'eau va devenir à manquer. Hier Macron il a quand même dit un truc dans son discours,
c'est que
l'eau allait augmenter. Non, mais pas forcément. Là l'histoire. Non, mais attendez, ça c'est toujours le truc vertueux du départ. On sait comment ça se finit, malheureusement. Et Macron hier il a quand même dit que l'eau allait augmenter. Donc c'est toujours sous couvert d'intérêt écologique.
C'est indéniable. Quand tu passes d'un régime d'abondance à un régime de restriction, ça augmente. Mais pour te répondre sur la taille des bassines, parce qu'aujourd'hui c'est une loi de la physique. Une bassine de 3 millions de mètres cubes, ça s'évapore moins que dans 10 bassines de 300 000 mètres cubes.
Tu fais pas des châteaux
d'eau. C'est des lois de la physique.
Châteaux d'eau, c'est
quand même après, recouvrir les bassines, c'est une solution.
Ah bon, on va continuer d'en discuter dans un instant. Je remercie Valentin de ses précisions, Valentin Maraîcher. Du côté de la Loire-Atlantique. Bonne journée Valentin, merci d'avoir été avec nous. On continue de discuter de ces bassines, méga-bassines. On va voir ce que nos GG continuent d'en penser. Sarah Salman, Bruno Poncé, Didier Giraud et vous au 32-16. Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, les grandes gueules avec Didier Giraud, agriculteur en Saône-et-Loire, Bruno Poncé, cheminot et syndicaliste, Sarah Salman, avocate qui est avec nous. On parle de ce scandale, cette polémique. Autour de ces retenues collinaires, comme le dit Didier Giraud, notre ami agriculteur, ou ce que les écologistes, les opposants, appellent les méga-bassines, le symbole du désastre écologique et du gaspillage de l'eau, selon eux. C'est ce qu'ils disent, il faut laisser l'eau entrer dans les sols, ensuite suivre son cheminement naturel et profiter à la terre et à tout ce qui est la biologie souterraine, plutôt que d'essayer ensuite de la pomper, tout ça au profit d'une agriculture intensive et qui aujourd'hui n'a plus lieu d'être dans notre pays. Sarah ?
Je suis pas une grande professionnelle de l'écologie, je pense que tout le monde le sait ici. D'ailleurs, je voulais faire mon bilan avec vous parce que ça fait un an que je suis là, donc je voulais voir si les choses avaient évolué sur mes bains, puisque hier ça a été un sujet. Donc oui, je prends toujours 2 bains par jour et je continuerai. Ça, c'était vraiment pour introduire le propos à titre liminaire.
Ça t'a pas fait réfléchir en te disant peut-être que je pourrais réduire, n'en prendre qu'un par jour.
J'ai rajouté de la mousse.
En même temps, quand tu prends 2 bains, vu la taille que tu as, ma chère, et donc la taille que doit avoir ta baignoire, mais t'es toute petite, t'es toute
menue. Et qu'est-ce que ça change?
Ça fait comme, t'as pour faire 20 bains quand Bruno et moi on en prend un seul.
Ah
quoi.
Oui, c'est ça.
Parce qu'il nous faut pas la même baignoire que toi, quoi.
Les baignoires n'est pas adaptées sur mesure à ma personne.
C'est dommage, alors.
Mais plus sérieusement, la réaction des écolos radicaux m'a fait réfléchir. Mais en fait, avant, je m'en foutais de l'écologie. Oui. Maintenant, ça me rebute complètement.
C'est ça,
parce qu'ils ont,
ça devient les un étendard.
Les écolos radicaux, je pense, sont dans une idéologie déconstructrice où c'est même pas, ils sont pour ou contre, c'est par principe, ils sont contre tout. Donc là, les méga-bassines, moi, j'ai pas les compétences nécessaires pour dire si c'est bien ou si c'est pas bien. Je vais être complètement honnête. Mais les écolos radicaux, quand ils se déplacent à Sainte-Soline, ils viennent pour détruire, pour casser. Ils viennent de pays étrangers. Et je ne pense pas qu'ils viennent pour les bonnes raisons. Voilà.
Puis quand tu regardes les images, enfin, je pense qu'il n'y a pas que des écolos.
Et quand je vois, non, écoute-moi.
Il n'y a pas que des écolos. Il y a des gens qui viennent faire.
Et quand je vois certains députés comme Clémence Guettet, qui était sur place, qui dit que ça s'est très bien passé, etc., je trouve que c'est aussi une récupération politique.
Moi, je sais pas non plus s'il faut faire oui ou non des méga-bassines. Mais sincèrement, c'est assez insupportable ce qui s'est passé cette semaine, avant Sainte-Soline et après Sainte-Soline, dans quasiment tous les médias, et notamment ceux du service public, on a donné la parole cas des anti-bassines. Ouais. C'est-à-dire cas des écologistes. Alors, c'est intéressant d'entendre l'argument, on entendait toujours les mêmes arguments. Ouais. Cas des chercheurs en sociologie, machin. Mais j'ai pas entendu beaucoup, comme on vient de le faire tout à l'heure, des agriculteurs comme toi, Didier, ou comme celui qui était avec nous, le maraîcher de Loire-Atlantique.
On a besoin d'eau.
Très intéressant.
Produire.
Et qui sont les premiers, quand même, concernés, puisque ce sont eux qui ont besoin d'eau, alors que ceux qui viennent de Paris pour manifester contre les mégabassines, ça les concerne quand même assez indirectement.
Le robinet, il
voilà.
coule tout le temps.
Le robinet coule tout le temps. Donc, je trouve que là, non, mais ça pose un problème de la désinformation, en tout cas, d'une information
et de la
commerciale.
Hiérarchisation de l'information.
Ça serait bien qu'on fasse comme ici à RMC dans les grandes gueules, qu'on entende un agriculteur, qu'on entende un écologiste, qu'on entende les pour et les
justement. Quand je dis c'est pas si tranché que ça, dans les scientifiques, il y a des gens qui sont
bien sûr,
dans
les médias.
Et entre autres, les gens qui ont fait les études pour le lieu d'implantation de la bassine, il y a des gens qui ont fait des vraies études et qui sont des hydrographes confirmés, qui sont pour, et puis t'en as d'autres qui sont contre. Et ce débat-là, pas souvent quand même.
On les entend moins.
Il faudra notamment sur le service public, parce que ça, c'est notre impôt, hein, après,
c'est notre argent.
Mais sur les chaînes du service public,
ils ont mis que des députés LFI qui étaient contre.
C'est quand même un parti pris anti-bassine qui est hallucinant.
Nous allons. T'as un contexte local qui est 100% pour, hein.
Je rappelle d'ailleurs que la région socialiste et le département de droite sont pour. Hein.
Alors nous allons continuer d'en débattre justement avec un autre point de vue, celui de Fabien qui nous appelle de Haute-Marne, qui est technicien environnemental. Bonjour Fabien.
Bonjour.
Alors selon vous c'est une catastrophe, expliquez-nous pourquoi.
Sans parler de catastrophe, pour moi c'est surtout quelque chose qui n'est pas raisonnable. Moi j'ai un point de vue, j'ai quelques arguments par rapport au fait que là, quand j'entends que par exemple on va pomper le trop-plein dans une nappe, et en fait dans une nappe il n'y a pas de trop-plein, ce qu'elle peut stocker, elle peut le stocker, après elle le rend de manière modérée pour alimenter des cours d'eau, pour alimenter des ruisseaux, pour faire vivre un écosystème. On peut toujours se dire qu'à la rigueur, effectivement, on coupe les cours d'eau, on pompe tout.
On fait bien les barrages.
Comment ?
On fait bien des barrages. Vous êtes contre les barrages hydrauliques ?
On parle d'eau superficielle dans le cas des barrages. C'est pas la même chose. Une nappe phréatique, c'est de l'eau infiltrée, c'est une réserve, c'est une poche.
Non, c'est pas une réserve, c'est de l'eau qui va à la mer.
Pas dans une nappe.
Vous parliez de l'eau des rivières.
Non, c'est toi qui en parle avec les barrages et les
rivières. Non, je vous ai dit qu'une nappe, le trop-plein d'une nappe alimente des rivières.
Des rivières, oui.
Oui, mais donc ça part dans les rivières.
On fait que de pomper le trop-plein. Donc effectivement, on arrête d'alimenter des rivières, globalement.
C'est ça. Ça peut être le risque.
On en a besoin.
Ce que vous nous dites là, Fabien, c'est dans l'absolu, c'est vrai. Sauf qu'il faut voir le différentiel qu'il y a entre l'eau qui tombe et celle qui est pompée, quoi. Pomper dans une nappe qui correspond à un territoire, que Fabien explique.
Allez-y.
Non, mais moi, je pense que aller pomper de l'eau qui s'est stockée, qui est protégée des aléas du climat, qui est protégée de la météorologie ou de je sais pas quoi, c'est un problème. Parce que c'est de l'eau potable, d'autant plus. Par contre, effectivement, créer des bassines qui seraient plutôt des bassines écréteurs de crues, comme des réserves collinaires, comme on a pu entendre juste avant, et qui permettraient de protéger notamment les communes, les zones inondables et tout ça, en récupérant les eaux, l'excédent d'eau de surface, pour le restituer à plus ou moins long terme, notamment en période estivale, pendant les périodes d'étiage. Certes, là, on est sur une gestion qui serait plutôt intelligente. Globalement, aller pomper de l'eau, la mettre dans des bassines. Moi, je fais de la mesure, je travaille en assainissement, je fais de la mesure débimétrique sur des lagunages, par exemple, qui sont des systèmes de traitement d'eau usée. Sur une journée, on est capable de perdre 50% du débit entre l'entrée et la sortie de cette station. C'est trois bassins qui sont pareils sur le même type. C'est de la géomembrane, donc de la bâche noire. Ça va être en plein vent, au soleil. Donc il y a un phénomène d'évapotranspiration qui représente plusieurs centimètres par jour. Et c'est même pas une question de soleil d'ailleurs, hein, parce qu'il suffit qu'il y ait du vent, qu'il y ait des choses comme ça.
Oui, bien sûr.
Pour perdre tout ça. Donc là, on va dire qu'on va pomper du trop-plein qui alimente des rivières pour le mettre dans des bassines qui vont être qui vont subir toutes les aléas climatiques. On va perdre énormément de ce qu'on a pompé pour le restituer en étiage. Donc on va créer des pertes dans les nappes, on va créer des pertes dans ces bassines, parce que de toute façon, on va pas pouvoir les maintenir au niveau où on avait pompé au début. Et après, on continue de pomper en été, parce qu'en fait, ça veut même pas dire qu'on va pas pomper en été dans les nappes, ça veut dire qu'on pompe juste moins.
Mais c'est l'hiver.
Non mais Fabien, là, vous êtes en train de nous expliquer quelque chose qui est qu'un volet du problème du stockage de l'eau, quoi. Hein.
Eh ben, c'est quoi,
le système que vous décrivez, il existe, certes, mais c'est qu'un volet du système de stockage de l'eau où on pompe directement dans une nappe. Enfin, vous êtes dans une région, la Marne, où les gens, toute la Beauce en France, ils plantent un tuyau en terre et ils pompent directement dans la nappe pour arroser directement sans stockage dans le milieu, quoi. Hein. Y a aussi le stockage des eaux de surface, quoi. Enfin, j'arrive pas à comprendre comment vous pouvez décrire qu'un seul système et dire qu'il est unique, quoi.
Oui, mais un des arguments, parce que Fabien donne des arguments techniques. Non, mais un des arguments aussi pour l'agriculture locale, c'est de dire il y a qu'à réduire les parcelles aussi. On réduit les parcelles. On change de modèle agricole. Et on passe à autre chose. On a moins besoin d'arroser.
En gros, tu veux dire qu'il faut arroser moins.
Il faut moins produire.
Donc, c'est ce que je te dis, c'est l'argument qu'on entend. C'est de changer de modèle.
Donc, quand t'as un maraîcher qui te dit, on importe 50% des légumes qu'on consomme, tu verses ta larme, et puis après, tu nous dis, faut produire moins. Le choix de société, tu l'as fait.
On a pas défendre la souveraineté alimentaire et nous expliquer qu'il faut produire moins.
Ce que t'importes, il n'y a pas d'écolo cagoulé qui
est à l'assaut. C'est au-delà de l'importation.
Non,
mais c'est au-delà de l'importation. Le modèle qu'il prône, c'est celui de la décroissance.
Oui, voilà.
C'est-à-dire aujourd'hui, on consomme trop, mais au moins, on consomme de moins de légumes. De moins manger, de moins consommer.
Sincèrement, il n'y a pas de surconsommation de légumes en France.
Il y a un vrai débat.
C'est ce qui coûte le plus cher.
Tout est lié. Il y a un vrai débat sur le gaspillage alimentaire.
Mais c'est pas sur les légumes.
Non, mais c'est pas ça qu'on parle.
Résolvons le gaspillage alimentaire, on aura moins besoin d'eau.
Didier est d'accord avec ça. La cible, c'est les céréaliers qui ont 700 hectares. Et que les mecs pompent à Tarbas tout le temps.
Alors, non, l'idée est
là. Et sachant que ce blé-là, mon gars, tu le mangeras jamais parce qu'il est vendu ailleurs et que nous, on va importer du blé ukrainien ou d'ailleurs. Donc, à un moment donné, il faut qu'on soit logique.
Sincèrement,
produisons ce qu'on mange et après, on verra.
La seule réalité, c'est que le nombre d'agriculteurs ne cesse de baisser chaque année. Ouais. Et que moi, je pense qu'on va faire avec l'agriculture ce qu'on a fait avec notre industrie. Avec l'idée des croissances,
pour produire
moins. On a fait la même chose pour l'industrie. Ah ben non, faut moins produire. L'industrie, c'est polluante, etc. Petit fait que finalement, on ne produit plus rien en France.
Alors,
on achète à l'autre bout du monde.
C'est déjà fait parce que rien d'aujourd'hui.
Le pays s'appauvrit. On le voit bien.
J'ai quelques contacts avec des paysans de Hongrie, de République tchèque. Je peux te dire que ces gens-là, ils en ont rien à foutre de tout ce cirque-là.
Ils se marrent.
Je peux dire que les Black Blocs qui vont défendre la machine, ils sont écrabouillés comme une punaise. Hein. Et d'ailleurs, ils y vont pas. Et que ces gens-là, ils stockent de l'eau, ils produisent, ils nous envoient du blé ou toute autre chose de façon compétitive en termes de tarifs. Et ces gens-là, ils disent ah mais si vous voulez arrêter de produire, c'est pas grave, nous on va produire pour vous.
Ça commence déjà.
Ils n'ont aucune contrainte sur les pesticides, ils n'ont aucune contrainte sur l'eau.
Sur des produits, on ne l'est plus.
Bonjour Johan.
Oui, bonjour.
Agriculteur en Charente, justement. Alors, vous avez besoin de ces retenues d'eau ?
Tout à fait. Et bon, j'ai entendu ce qu'a dit Fabien, je crois, l'intervenant. Bon, peut-être que ce qu'il a dit est vrai dans son secteur, mais Charente de Sèvres, ce qu'il a dit est totalement faux concernant les réserves. Les réserves. Alors, quand on parle de nappe phréatique, une nappe phréatique, on met tout dedans. Sainte-Soline et une partie du Poitou-Charente. Les remplissages des réserves se fait par des nappes dites libres, c'est-à-dire des nappes superficielles, et l'eau s'écoule quand elle commence à déborder. Et le remplissage de ces réserves-là est fait que quand le débit le permet et quand le niveau de la nappe est en excès. Alors, il n'y a aucun remplissage de ces réserves-là l'été. C'est parce que contrairement à ce qu'il a dit tout à l'heure, les agriculteurs s'en servent au printemps ou à l'été et pompent dedans, mais sont remplis l'hiver si le niveau de la nappe est supérieur au seuil de référence et si on le peut. Si dans notre secteur, l'irrigation s'est développée il y a 30 ou 40 ans, il y a une raison. On est sur des sols superficiels, des zones dites intermédiaires, des sols très pauvres. Malheureusement, sans eau, on ne produit rien. Et ça sera encore plus vrai demain. Et ça me gêne.
Les bassines, elles sont pas pleines aujourd'hui parce que la pluviométrie de cet hiver a pas été suffisante.
C'est donc bien la démonstration qu'on prend le surplus.
Merci Johan d'avoir été avec nous. On va regarder ce que vous en pensez, mais il y a bassine. Est-ce que c'est un désastre écologique, oui ou non? Allez, quel est votre sentiment par rapport à ce débat? C'est très partagé. Hein. Non, c'est pas un désastre écologique, c'est 51%, 51-48%, donc ça reste très serré. Le débat reste ouvert, comme disait l'autre.